Les sanctions américaines contre l'Iran nuisent à l'économie mondiale et à l'Europe, déclare le président iranien Ebrahim Raisi dans un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. Lors de l'appel téléphonique, le président iranien Ebrahim Raisi a réitéré que les sanctions américaines contre la République islamique à la suite du retrait unilatéral de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 ont nui à l'économie mondiale, en particulier à l'Europe. Lors de l'appel téléphonique de 120 minutes avec son homologue français Emmanuel Macron, samedi, Raisi a ajouté, et je cite, « Malgré les sanctions américaines, l'Iran a réussi à réaliser une croissance spectaculaire de sa coopération politique et économique avec divers pays à travers le monde. Le président iranien a condamné les mesures et positions non constructives des États-Unis et des pays européens contre l'Iran et a déclaré. » La publication d'une résolution au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique était une initiative provoquant une crise visant à créer une pression contre la nation iranienne, ce qui a sapé la confiance politique. Par ailleurs, il a souligné la nécessité pour l'Iran de pouvoir récolter les bénéfices économiques de l'accord sur le nucléaire officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint JCPOA. À travers une éventuelle relance de l'accord multilatéral que les États-Unis ont unilatéralement abandonné 3 ans après leur signature. La République islamique d'Iran estime que la conclusion d'un accord sur la relance du JCPOA dépend de la résolution complète des clauses concernant la sauvegarde et de la fourniture des garanties nécessaires, y compris l'adhésion continue des parties à l'accord et la réalisation des intérêts économiques de la nation iranienne, a souligné le chef de l'exécutif iranien. Dans la foulée, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA annonce avoir adopté une résolution le 8 juin accusant l'Iran de ne pas coopérer avec l'agence. La résolution a été approuvée avec 30 voix pour, 2 contre et 3 abstentions. Le Conseil d'administration de l'AIEA adopte une résolution anti-Iran parrainée par l'Occident. Cela s'est produit alors que l'Iran et les 5 autres parties du JCPOA avaient tenu plusieurs séries de pourparlers dans la capitale autrichienne de Vienne depuis avril de l'année dernière pour rétablir l'accord qui avait été abandonné par l'ancien président américain Donald Trump en mai 2018. En retirant de l'accord, Trump a rétabli les sanctions contre l'Iran dans le cadre de ce qu'il a appelé la campagne de pression maximale contre le pays. Ces sanctions sont appliquées à ce jour par l'administration Joe Biden, même si elle a reconnu à plusieurs reprises que la politique était une erreur et un échec. Pendant ce temps, l'Iran et les États-Unis ont mené 2 jours de pourparlers, un direct médiatisé par l'Union européenne, dans la capitale qatarie de Doha fin juillet, dans le but de sortir de l'impasse dans la relance du JCPOA. En l'absence de la campagne antiterroriste, l'Iran Daesh aurait capturé l'Europe. Le président iranien a également déclaré à son homologue français que le groupe terroriste Daesh déclarerait aujourd'hui un califat en Europe s'il n'y avait pas le rôle de la République islamique dans la promotion de la sécurité dans la région, notamment sa lutte contre le terrorisme et son soutien à la souveraineté territoriale et l'intégrité nationale et des pays. Selon le président Raisi, les crimes de Daesh et d'Israël découlent des desseins de l'Occident. Le président iranien Ebrahim Raisi a tenu les services d'espionnage occidentaux et le régime israélien responsable des raids violents des forces israéliennes contre les fidèles palestiniens à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa ainsi que des attaques terroristes en Afghanistan. Raisi a ajouté que les questions régionales devraient être réglées par les nations et les gouvernements de la région, soulignant que l'intervention étrangère va à l'encontre de la sécurité et de la stabilité. La France continuera à jouer un rôle actif jusqu'à la conclusion de l'accord final, a dit M. Macron. Le président français, pour sa part, a déclaré que son pays poursuivrait son rôle dans le processus de conclusion des négociations pour relancer le JCPOA. M. Macron a ajouté que l'Iran joue un rôle de premier plan dans la mise en place de processus politique dans la région. Il a exprimé le soutien de son pays à la position de l'Iran contre les opérations militaires de certains pays de la région contre la Syrie. Les présidents iraniens et français ont également discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi que des développements régionaux et internationaux et des grands défis mondiaux, notamment la sécurité alimentaire et énergétique. En France, le projet de loi qui avait été proposé sur la taxe sur les superprofits de certaines multinationales a été rejeté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale en France a rejeté de peu une taxe sur les superprofits de certaines multinationales votée conjointement par des députés NUP et RN. La majorité présidentielle a pu compter sur le vote des Républicains pour rejeter le texte. L'Assemblée nationale a rejeté de peu le 23 juillet l'idée d'une taxe sur les superprofits aux bénéfices exceptionnel des grandes multinationales de transport de marchandises ou pétrolières malgré les protestations de la gauche et du RN. Les votes ont été très serrés, 96 pour 114 contre pour rejeter des amendements principalement issus des rangs de l'Alliance de gauche NUP, mais aussi du Rassemblement national. Quatre députés, dont la majorité se sont abstenus, parmi lesquels Sacha Houlier et Caroline Janvier, qui avaient défendu le principe de cette taxe. Un de leurs collègues d'Horizon a voté pour. Les députés de l'opposition souhaitaient une taxe exceptionnelle de 25% sur les super-profits des différentes sociétés pétrolières et gazières de transport en maritime ou les concessionnaires d'autoroutes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a critiqué le principe d'une taxe de l'emphase idéologique, selon lui, et salué les gestes opportuns de Total Energy et de la CMA-CGM. Les gens de l'énergie et du transport maritime ont proposé le 22 juillet une remise à la pompe de 20 centimes pour l'un et une réduction des taux de fret de 750 € par conteneur de 40 pieds pour l'autre. Des députés de la majorité avaient déposé des amendements pour proposer cette taxe retirée suite aux annonces des deux géants internationaux. La majorité a pu compter sur l'appui des Républicains LR sur ce texte. Notre ADN, c'est de taxer moins, a déclaré la députée LR de l'Orne Véronique Levagie. Oui, la pression de l'Assemblée nationale sur Total et sur CMA-CGM a été efficace et je remercie tous les parlementaires, tout bon confondu, c'est Régis Bruno Le Maire pour qui la contribution volontaire des deux groupes rend plus d'argent aux Français. Des propos qui ont déclenché l'ire de la gauche. Le peuple français est en train de souffrir quand Total est en train de se gaver, intensé la présidente du groupe LFI et députée du Val-de-Marne, Mathilde Panot. Vous vous refusez à une mesure légitime et qui se répand autour de nous, a déploré la députée socialiste du Puy-de-Dôme, Christine Pire-Bonne. Citons les cas de l'Espagne, de la Grande-Bretagne ou de l'Italie qui ont adopté des taxes exceptionnelles sur les super-profits. Fut un temps dans cet hémicycle, au début de la Troisième République, où les grands patrons siégeaient directement pour défendre leurs intérêts, ça avait le mérite de la transparence. Maintenant, ils sont ministres à attaquer le député RN de la Somme. Et Jean-Pierre Tanguy parlant de numéro indécent entre lobbying et la défense de la Macronie. Le seul lobbyiste, ici c'est moi, a balayé Bruno Le Maire. L'Australie reconnaît enfin que l'accord AUKUS n'a aucun sens. En septembre 2021, l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis annonçaient l'accord AUKUS, une nouvelle alliance en vertu de laquelle l'Australie achèterait des sous-marins nucléaires aux États-Unis ou au Royaume-Uni et abandonnerait son contrat pour les sous-marins français à moteur diesel. J'ai déjà expliqué les détails et les conséquences négatives de cet accord. Pour se protéger de l'hostilité des États-Unis, l'Australie décide d'acheter des sous-marins américains. Ce fut une victoire énorme, mais à court terme pour les États-Unis, avec un prix de consolation pour la Grande-Bretagne et une perte stratégique de souveraineté et de contrôle budgétaire pour l'Australie. Cela a aussi été une nouvelle gifle de la part des États-Unis à l'encontre de la France et de l'Union européenne. L'accord mettra en colère la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie et bien sûr la Chine. Il bouleversera le régime international de non-prolifération nucléaire et pourrait conduire à une nucléarisation militaire accrue de la Corée du Sud et du Japon. Il était facile de prévoir que l'accord bouleverserait le calendrier de développement de la marine australienne. Il est évident qu'il coûterait également beaucoup plus d'argent que son budget ne peut en fournir. Mais les sous-marins à fonctionnement nucléaire présentent également de nombreux points négatifs. Ils sont plus grands et plus chers que les sous-marins conventionnels. Ils coûtent près de 50% de plus. Ils nécessitent également une infrastructure dédiée et une formation nucléaire très spécialisée pour les équipages. L'Australie n'a ni ne peut fournir le combustible nécessaire aux réacteurs nucléaires. Le premier des sous-marins français destinés à l'Australie devait être prêt au début des années 2030. Il faudra maintenant attendre une longue période, peut-être une décennie, pour que l'Australie obtienne de nouveaux sous-marins. Sa classe Collins actuelle nécessitera plus qu'un simple carénage pour être maintenu aussi longtemps. Ça va coûter cher. Les Allemands pourraient s'engouffrer dans la brèche en proposant leur sous-marin de type 214 à propulsion par hydrogène. Bien que ces sous-marins soient beaucoup plus petits, ils offrent une longue endurance, peut-être approvisionnés assez rapidement et coûtent beaucoup moins cher que les sous-marins à propulsion nucléaire. Dans l'ensemble, je ne vois aucun avantage pour l'Australie dans cette décision. Depuis l'Australie a élu un nouveau gouvernement, celui-ci reconnaît le gâchis que l'accord a créé. Il n'y aura pas de nouveaux sous-marins avant au moins 2040. Ils seront probablement très chers. C'est un extrait d'un texte écrit par Moon of Alabama le 21 juillet 2022 et traduit par Vaian, relu par Hervé pour le Sacker francophone. L'US Army a de sérieux problèmes de recrutement. Ce 23 juillet 2022, Laurent Lagneux, notre confrère du site d'information militaire français OPEX, a eu la bonté de nous faire découvrir les graves problèmes de recrutement que connaît l'US Army depuis quelques années. Depuis quelques années, l'US Army connaît des difficultés récurrentes pour recruter au point d'envisager d'assouplir ses critères de sélection afin d'élargir le vivier de candidats potentiels à un engagement. Ainsi, en 2016, le chef du Pentagone, qui était alors Ashton Carter, lui avait demandé de revoir ses normes de recrutement afin de s'assurer qu'elles n'étaient pas trop restrictives, notamment s'agissant du surpoids, de la forme physique, de tatouages et de consommation passée de marijuana. Faute de quoi, avait-il dit, l'US Army risquerait de s'isoler du reste de la population. En outre, M. Carter avait expliqué qu'il était de plus en plus difficile de recruter de nouveaux soldats dans les États du Nord-Est, alors que les forces armées américaines avaient moins de peine à trouver des candidats à un engagement dans leur vivier traditionnel, à savoir le monde rural et les États du Sud. Et M. Carter de souligner que les enfants de militaires avaient deux fois plus de chances que les autres de s'engager dans l'US Army, qui, selon ses termes, commençait à ressembler à une entreprise familiale. D'où la nécessité pour celle-ci, avait-il estimé, d'avoir une approche moins décourageante vis-à-vis de certaines catégories de personnes dont le nombre croît rapidement. 6 ans plus tard, la situation ne s'est pas améliorée. Elle risque même de se dégrader davantage, selon le général Joseph Martin, chef d'état-major adjoint de l'US Army. Ainsi, a-t-il dit lors d'une audition parlementaire cette semaine, 10 000 recrues vont manquer à l'appel pour l'exercice 2022. Et selon des projections pour 2023, le déficit devrait s'aggraver avec plus de 28 000 postes qui ne seraient pas pourvus. Au total, et si ces prévisions se révèlent exactes, cela équivaut à l'effectif de 9 à 10 brigades, Brigade de Combat, Team BCT de l'armée américaine, ce qui est significatif. Pour expliquer cette situation, le général Martin a évoqué les conséquences de la pandémie de COVID-19, la concurrence du secteur privé et la réduction du vivier de recrutement, la part de la population potentiellement apte pour s'engager étant passée de 29 à 23%. Et il a aussi souligné le fait que de moins en moins d'Américains manifestent un intérêt à servir. En clair, le vivier de candidats potentiels que se partagent aussi l'US Navy, les Marines et l'US Air Force se réduit comme peu de chagrin. S'agissant de l'impact de la crise Covid et au-delà des aspects économiques, l'US Army fait valoir que l'enseignement à distance s'est traduit par une baisse du niveau académique et de la forme physique, ce qui joue évidemment sur l'aptitude des candidats potentiels à un engagement. D'après CNN, l'armée américaine pourrait baisser une nouvelle fois ses normes de recrutement. L'idée de ne plus exiger un diplôme d'études secondaires pour s'engager ayant été avancée. Cependant, cette orientation n'est pas privilégiée. C'est ce qu'a en effet laissé entendre Christine Wormus, la secrétaire à l'US Army, dans un entretien donné à l'Associated Press. Nous sommes confrontés à une question fondamentale. Devons-nous abaisser les normes pour atteindre nos objectifs ou devons-nous revoir nos objectifs pour maintenir une force professionnelle de qualité ? A demandé Madame Wormus, et pourrait la qualité doit primer sur la quantité, sauf que cela ne résout pas le problème, sauf à réduire le format de l'US Army, ce qui aurait des conséquences capacitaires et opérationnelles. Moscou accuse Kiev d'avoir piégé des installations de stockage de déchets radioactifs et chimiques à Konstantinovka. La Russie multiplie et s'est mise en garde contre les attaques ukrainiennes contre des sites sensibles, des sites contenant des substances chimiques ou radioactives pour les attribuer aux forces ukrainiennes et à leurs alliés, notamment dans les zones de Donetsk où se concentrent actuellement la plupart des combats. La Russie a accusé ce samedi 23 juillet les forces ukrainiennes d'avoir piégé des installations de stockage de déchets radioactifs et chimiques à Konstantinovka dans le but de les faire exploser lors de leur retrait et d'accuser les forces russes de le faire. Konstantinovka est une ville industrielle de l'oblast de Donetsk située sur la rivière Kirivi-Doretsk. À 58 km au nord de Donetsk, elle fait l'objet d'une offensive russe destinée à en déloger les militaires ukrainiens. Des extrémistes ukrainiens à Konstantinovka ont piégé des installations de stockage de déchets radioactifs et chimiques dans une entreprise de production de premier plan, a déclaré le chef du centre de surveillance de la défense nationale russe Mikhail Mezinstev. Le responsable russe a noté que les autorités de Kiev prévoient ainsi une nouvelle provocation dans une installation dangereuse afin d'accuser l'armée russe de créer une prétendue contamination radioactive dans certaines régions d'Ukraine. Selon le site d'information russe sur Telegram, Instel Slava Z, l'artillerie russe a détruit ce samedi les positions ukrainiennes à Konstantinovka et Doretsk. Des combats font rage dans cette ville, ainsi qu'à Kramatorsk, Artemovsk et Bakhmut, selon le site russe. Le lundi 18 juillet, les forces armées russes ont atteint le point de déploiement temporaire de mercenaires de la Légion étrangère ukrainienne à Konstantinovka. Jusqu'à 250 combattants étrangers, 7 véhicules blindés et 12 véhicules spéciaux ont été détruits selon les médias russes. Ces derniers avaient indiqué la semaine passée que les troupes alliées ont occupé un tronçon de l'autoroute Konstantinovka. Avdivka, près du village de Kamanka, citant le colonel du ministère de l'Intérieur de la RPL, Vitali Kiselev. À noter que le 21 juillet, Moscou avait révélé par la voix de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, que les forces armées ukrainiennes ont lancé le 18 juillet une attaque sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Elle a précisé que la frappe en question a été effectuée à l'aide d'un drone à proximité immédiate de cette centrale située dans cette région ukrainienne sous contrôle de l'armée russe. Le jour même, l'opérateur ukrainien de l'énergie nucléaire déclarait que la Russie stocke des armes lourdes et des munitions sur le site de la centrale de Zaporijjia. Selon Energoatom, au moins 14 unités de matériel militaire lourd avec leurs munitions seraient ainsi stockées dans la salle des machines du réacteur numéro 1 de la centrale la plus grande d'Europe. Le 23 avril, Moscou a accusé les États-Unis de préparer de nouvelles provocations dans le but de rendre l'armée russe responsable de l'utilisation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires en Ukraine. Le ministère russe de la Défense dispose d'informations sur la préparation de provocations par les États-Unis dans le but d'accuser les forces armées russes d'utiliser des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, avait alors déclaré Igor Kirillov, commandant des forces de défense radiologique, chimique et biologique de l'armée russe. Le président américain Joe Biden avait précédemment nié que son pays possédait des armes biologiques et chimiques en Ukraine et explique que les accusations russes contre son pays étaient un signe de l'intention de la Russie d'utiliser de telles armes.